Bonjour Soro.
Bonjour.
Ah, comment on se sent ici en Lozère? T'es arrivé quand?
Moi, je suis arrivé jeudi en fin de journée et moi, je découvre la région. Mais c'est juste magnifique. Non, mais franchement, c'est pas pour jouer le flagorneur. La nuit tombée, ça m'a renvoyé dans mon petit village de Pau-Cahal du nord de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis fils de paysan. Donc, j'ai grandi dans l'univers naturel, avec la lumière de la lune. Et là, à la tombée du jour, tous les villages étaient éteints. Il n'y avait pas d'éclairage public. J'ai dit, mais c'est ma petite enfance, c'est comme un souvenir incroyable, quoi. J'ai trouvé ça beau, et puis de voir ce village vacances avec autour de nous, cerné comme par une protection naturelle de toutes ces collines et tous ces arbres, ça respire la nature. On se sent vivre. Même quand on n'a pas le moral, on a oublié de l'avoir quand on est dans un endroit comme celui-là.
Ça fait tellement bien de réentendre ta voix, puisque tu as bercé mon adolescence avec l'Afrique enchantée, forcément. T'en es où aujourd'hui? Ton rapport à la radio, c'est quoi?
Mon rapport à la radio, il reste éternel. C'est le seul métier que j'ai appris dans ma vie. Parfois, pour me chambrer moi-même, je dis, moi, je suis un cancre. Je ne sais rien faire d'autre que de la radio. C'est vrai. Pour te résumer la situation, je suis tombé en amour pour la radio. J'avais peut-être 5 ans et demi, 6 ans. Quand mon père, qui a quitté son village dont je parlais tout à l'heure, pour venir s'installer à la ville où moi je suis né, il a été dans les années 50 à acheter l'une des premières radios du quartier. Et la radio que vous les jeunes ne vous connaissez pas, c'était des vrais meubles, genre la hauteur 1 mètre, la largeur 1 mètre et demi. Le père, il met la radio en marche, j'entends quelqu'un parler avec une voix de blanc. Je dis, mais comment elle a fait pour rentrer dans cette boîte pour nous parler tout le temps? Donc j'ai été fasciné, pour la faire courte. J'ai toujours voulu faire de la radio. Tout du long de ma scolarité, j'ai rêvé à ça. Et quand je suis sorti du lycée, j'ai passé le concours d'entrée à l'école de l'ISTC, à l'Institut des sciences et techniques de la communication à Abidjan, où j'ai appris le métier de producteur radio, que je suis venu finir ma formation à l'Institut national de l'audiovisuel à Paris. Et j'étais donc diplômé de cette école. J'avais du boulot en France à RFI. Non, je voulais rentrer dans mon pays parce que la ville, j'aime les grosses villes, je suis né en ville, mais en même temps, je reste profondément attaché à la campagne. Et la qualité de la vie de la campagne, du monde rural, ça n'a pas le prix. Donc je suis retourné en Côte d'Ivoire en 84 et j'ai fait de la radio pendant plus de 20 ans. Et c'est quand la guerre a éclaté en 2002 en Côte d'Ivoire, c'était un peu chaud pour moi. Je me suis exilé en France et j'ai eu la chance d'avoir... De reprendre mon métier de radio, d'abord à RFI, ensuite à France Inter, où avec Vladimir Cagnolari, nous avons effectivement produit et présenté à deux l'émission L'Afrique Enchantée. Donc voilà le parcours. Et aujourd'hui, j'ai pris ma retraite à France Inter en 2021, définitivement. Mais je continue de faire de la radio dans des associations, notamment à Pop Media à Nantes, où tous les ans, à la faveur de la commémoration de l'abolition de l'esclavage à Nantes, ils m'invitent pour venir faire une émission en public. Et même on est allé avec Vladimir et moi l'année dernière, donc en 2024, pardon, où on a fait l'Afrique enchantée, on a appelé ça Nantes enchantée à Nantes. Et là, en ce moment... C'est une mensuelle, je fais un programme mensuel avec une autre complice qui s'appelle Claire Dibois, qui a été la manager de Feu Manu Dibango, et on présente une émission qu'on a titrée « Tête d'affiche ». Et c'est vraiment tout récent, on a la deuxième édition seulement maintenant, deuxième production. Donc je garde ce contact avec la radio, mais comme j'avais pris ma retraite à France Inter, j'ai dit... Pour ne pas mourir sénile, je suis senior, il faut continuer à faire travailler le cerveau. Et bien, je me suis mis à l'écriture de spectacles et au métier de comédien. Donc j'ai écrit deux spectacles.
Qu'on aura la chance de voir au Lozère un jour?
Ben, j'espère, parce qu'il est un peu lourd. Ouais. Je veux dire, en termes de volume de personnel, le premier spectacle s'appelle le bal Marmaille. Et c'est l'histoire, justement inspirée de mon parcours de vie, d'un gamin qui a rêvé de faire de la radio. Et on va parcourir son cheminement de sa petite enfance, de son village, de son rapport avec sa culture traditionnelle, ce nous faut. Maintenant, de la découverte de la culture musicale moderne, la pop musique, le rock, etc. Et de son métier de radio. Et donc, c'est ça, le bal Marmaille. J'ai écrit ça coécrit avec Christophe Cagnolari en 2020 à la faveur de Covid. Mm-hmm. Et on a commencé à le tourner en 2021 et on continue de tourner avec ce spectacle. Deuxième spectacle que j'ai écrit, c'est sur une commande du directeur fondateur du Cabaret Sauvage à Paris, qui s'appelle le Cabaret Africain. C'est donc une histoire, un cabaret où se raconte la relation de cette Afrique-là, ce continent africain qui est mal connu quand même dans le monde occidental, et dans sa relation avec le monde occidental et particulièrement avec la France. L'histoire des anciens combattants qui sont venus combattre pour la France et après qu'on a éjecté comme des malpropres. L'histoire de la condescendance de la France, ancien pays colonisateur, vis-à-vis de ses populations africaines. L'histoire de la coopération qu'on présente aux Français comme une aide généreuse apportée aux Africains, aux pays colonisés par la France, ce qui est totalement faux. Il faut regarder entre les lignes. On voit dans cette coopération, c'est finalement l'Afrique qui aide le monde occidental en général et la France. Et même dans le projet de développement, quand une banque française ou l'État français prête d'argent à un pays comme la Côte d'Ivoire pour la construction d'un projet, d'une infrastructure, un hôpital, une ligne de train, et bien c'est financé par une banque française, mais à condition que tous les techniciens qui vont réaliser le travail soient des Français et que tout le matériel qui va être acheté pour la réalisation de cette infrastructure se soit acheté en France. Donc 90% de l'argent prêté à l'Afrique ou à ce pays africain pour la réalisation de ce projet, ça revient en France. Et nous, dans le pétrole, on dit que c'est comme si on prêtait à l'Afrique pour faire travailler les entreprises françaises. Voilà un peu mon volet comédien, où il y a parfois des spectacles qui ne sont pas politiquement corrects, mais en même temps qu'il y a urgence de raconter ces histoires-là d'un autre point de vue. Comme le proverbe dit en Afrique, tant que ce sont les chasseurs qui raconteront les histoires de la chasse, les chasseurs resteront des héros. Mais le jour où on aura la version des animaux, peut-être qu'ils ne sont pas aussi héros que ça.
Et il est temps pour nous, Français, de regarder notre passé en face et d'essayer au maximum de l'assumer. Mais justement, par rapport à ça, tu penses qu'on en est où aujourd'hui en France sur la liberté d'expression? Quel est ton regard là-dessus?
Mon regard là-dessus, il est biaisé par rapport à ça. Oui, c'est vrai, on vend dans le monde entier la démocratie occidentale, la liberté d'expression en France. Mais quand tu commences, même quelqu'un comme moi, j'ai applaudi en disant « Ouais, on n'a pas de liberté en Afrique, mais par contre en Europe, en Occident, il y a la liberté totale. » Mais quand on regarde aujourd'hui, le pays qui est présenté comme le champion toute catégorie de la démocratie, c'est quand même les États-Unis. Et que, comment on appelle, un Trump arrive au pouvoir et il ferme les principaux médias, notamment la Voix de l'Amérique, sous prétexte que ça ne parle pas de ce qui est des intérêts de l'Amérique. Mais n'allons pas loin, revenons dans notre pays, la France. Qu'on voit comme sur la radio nationale, France Inter, un humoriste, il traite un sujet appuyé sur des faits. Mais du fait que ce ne soit pas du point de vue des dirigeants, des politiques et des lobbies, eh bien, Guillaume Meurice se fait virer de France Inter. Sous le règne de Sarkozy, un journaliste écrit sur Clara, la femme du président. Peut-être qu'il n'a pas été insultant particulièrement. Je ne suis pas capable de résumer l'article, mais c'était un article publié dans Paris Match. Il s'est fait virer et il était un journaliste engagé par France. On peut étayer tout ça, documenter. Il y a des repères, on peut trouver des faits précis, des faits comme dans le journalisme, on dit les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Ce ne sont pas des commentaires. On peut se documenter, constater à combien le volume de journalistes qui se font rabrouer ou qui subissent des sanctions indirectes, parfois c'est noyé, donc cette liberté, elle n'est pas aussi effective à 100% comme on le vend au reste du monde. Il n'y a que parfois les médias libres aujourd'hui, indépendants, qui peuvent se permettre de traiter des sujets parce qu'ils ne dépendent pas d'une autorité publique, ils ne dépendent pas d'un marchand, d'un milliardaire comme les chaînes de télé, des journaux qui sont rachetés par les Bolloré, par toutes ces puissances, tous ces médias que nous connaissons au risque de me... de faire la publicité, je ne citerai pas des noms, mais tous les grands médias que nous connaissons dans la presse écrite ou dans la presse audio, ils sont noyautés par les marchands, par le capitalisme. On ne peut pas être libre quand on est noyauté par une puissance économique.
L'extrême droite est à nos portes. Est-ce que ça te fait peur? Quel est ton sentiment là-dessus? Et j'ai l'impression aussi que très peu de gens, contrairement... moi, j'avais 16 ans en 2002, quand une mauvaise personne est arrivée au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et là, la France s'est élevée, il y a eu des manifestations partout. Aujourd'hui, l'extrême droite est plus que jamais présente. Et j'ai l'impression qu'on manque de voix qui se lèvent contre cette dangerosité. Quel est ton regard là-dessus?
Mon regard sur la montée de l'extrême droite, j'ai dit on est tous coupables. L'extrême droite n'est pas une génération spontanée. Bon, c'est normal que... Enfin, c'est normal. On peut comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas le même point de vue de la gestion de la chose publique, de la politique nationale. L'extrême droite existe, à la limite, c'est normal, tout le monde a le droit d'exister. Mais on a fabriqué l'offensive, la montée de l'extrême droite. Tout le monde est coupable de la fabrication de sa montée. À commencer même par ceux qui disent « nous sommes de gauche, nous sommes pour la liberté d'expression, nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour l'équité ». Mais tous, regardez quand ils font leur campagne politique, tout le monde parle de sécurité. Pour parler de sécurité, ça veut dire qu'il y a un danger, mais il est où le danger? Tout le monde porte en épingle la problématique de sécurité. Et l'extrême droite joue sur ce paramètre-là pour faire peur aux gens, aux citoyens lambda, aux citoyens de la France. Pour dire, vous voyez, votre pays est envahi. Pourtant, envahi par qui? Par quoi? Comment? Et les dirigeants, que ce soit de gauche, quand on commence à resserrer, à parler de migration comme le danger extrême qui menace la population française, en quoi ça menace la population française?
C'est au contraire une grosse richesse.
Voilà. Et en même temps, on n'explique pas aux Français, même cette migration, à sa racine, elle a été installée, favorisée, construite, souhaitée, encouragée par les politiques, à commencer par notre passé historique. On va pas aller trop loin. Première guerre, deuxième guerre mondiale en France. La première armée dite de la France libre a été constituée par un administrateur de la colonisation française dans un pays africain qui est lui-même ce gouverneur, Félix Eboué, est un Guyanais noir. Et il était gouverneur au Tchad. Et c'est lui qui va soulever les armées pour constituer la première armée de la France libre pendant que De Gaulle était en exil en Londres. Et lui, il a installé donc la capitale de la France libre à Brazzaville, au Congo, Brazzaville. Et c'est là que ces troupes la vont être montées et réunir les soldats de toutes les anciennes colonies françaises, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne, le Sénégal, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Congo, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Mais on les a regroupés sous l'appellation générique de tirailleurs sénégalais. Et c'était des centaines de milliers de soldats soulevés en Afrique. Alors à l'époque, on ne leur a pas demandé d'avoir un visa pour venir combattre et libérer la France des griffes de l'envahisseur allemand. Premier point. Voilà comment on fait venir des Africains en France. Deuxième point. La France détruite a besoin de main d'œuvre pour se faire reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, on a passé des accords avec l'Algérie que la France elle-même avait envahie pour la dominer, pour l'écraser, pour exploiter ses richesses. On passe des accords avec la main-d'œuvre algérienne pour venir reconstruire. C'est ainsi qu'on a vu arriver une vague d'Algériens. Et tous ces pays aussi anciennement colonisés, dans nos pays, il y avait des accords pour valider un diplôme, par exemple, d'ophtalmologue dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il fallait venir faire un stage en France. On a gardé ces règles colonialistes. Et donc, tout ça, on a dit, c'est l'amoncellement de tous ces éléments qui a fait un mouvement des Africains, de l'Afrique, en tout cas l'Afrique dont je parle, vers la France. Donc, il faut regarder ce passé historique. Et que cette même France, le principal... Le pays, le continent où le commerce extérieur, la France est excédentaire, c'est avec le continent africain. Donc la France fait du business avec ce continent africain. Donc normal aussi que dans ces pays-là, avec cette ouverture, soit envie de venir faire des études en France, soit envie de venir faire travailler comme n'importe qui. Voilà la base de ce mouvement des populations. Mais qui explique ça clairement aux Français ? Personne, parce que ça n'arrange personne d'expliquer les fondements de ces mouvements de population de l'Afrique vers la France. Et qu'aujourd'hui, quand ils sont en difficulté politique, qu'ils n'arrivent pas à satisfaire les besoins fondamentaux des Français, c'est-à-dire les besoins fondamentaux, l'éducation, le logement, la santé, et eh bien, on va trouver un bouc émissaire. Mais c'est la faute aux étrangers qui viennent piquer le boulot de vos enfants, qui viennent piquer vos femmes. Et là, on surfe sur le facile à consommer, le facile à séduire, et on donne du grain à moudre à l'extrême droite. Donc, vous voyez pourquoi pour moi, ce problème, c'est pas que je vais dédouaner l'extrême droite, mais on comprend d'où vient, on leur sert sur un plateau d'or des raisons d'exister en tant qu'extrême droite. Et comme un peuple pas éduqué est un peuple facile à manipuler, regardez qui milite à l'extrême droite. Ce n'est pas forcément des gens qui sont cultivés, qui connaissent. C'est vrai qu'il y a des intellectuels, des universitaires, hein, mais la masse populaire qui vote, c'est des gens qui... Vous arrivez dans des villages où le FN a des records d'électeurs. Il n'y a aucun étranger dans ces villages. Mais comment expliquer ? Donc on ne peut pas dire que c'est seulement les étrangers qui posent problème. Il y a des tas d'autres paramètres parce qu'on a inculqué dans la tête de ces gens, vous, votre pays, vos richesses sont pillées par les étrangers. Ils viennent pour nous piquer notre sécurité sociale, ils viennent pour nous piquer notre travail, ils viennent pour profiter de la sécurité sociale extraordinaire de la France. Voilà les arguments qu'on essaie un peu partout. Donc c'est juste que, si je dois résumer en une phrase, quels que soient les dirigeants, ils jouent avec une boule de feu. S'ils la lâchent, elle leur explose à la figure. S'ils la tiennent, elle continue de leur brûler les mains. Donc à eux de penser des vraies solutions et de dire le problème de la France et des Français, ce n'est pas l'immigration, c'est autre chose. Et je ne sais pas quoi.
Leçon d'histoire en tout cas, et ça fait du bien de l'entendre. Pour finir, est-ce que tu es confiant pour l'avenir ? Est-ce que tu as de l'espoir en fait pour les générations futures, sachant qu'elle va être confrontée à des défis extraordinaires, hein, réchauffement climatique, extrême droite, on vient d'en parler, évidemment des fake news, des théories complotistes absolument aberrantes parfois. Quel est ton regard par rapport pour eux et par rapport à l'avenir ?
Ben, moi je suis de nature optimiste. Moi, je me présente toujours comme quelqu'un qui cultive amoureusement l'optimisme. Parce qu'il y en a besoin pour garder la tête hors de l'eau. Parce que si on se laisse fracasser par toutes les tuiles qui nous tombent dessus, on est ramolli. On n'a plus l'énergie pour combattre. Quand je dis combattre, c'est vraiment qu'on appelle une image pour dire pour lutter contre la vie, pour lutter avec la vie, pour s'en sortir, garder la tête hors de l'eau et vivre dignement par rapport à soi-même, par rapport à la société au sein de laquelle on vit. C'est vrai que quand on regarde notre planète aujourd'hui, on est tenté de tomber dans le pessimisme le plus absolu. C'est vrai, réchauffement climatique. Mais en même temps, écoutez, du temps, quand il y a eu le Big Bang, ou quand la génération des dinosaures a disparu, il n'y avait pas de réchauffement climatique. Il n'y avait pas Internet pour bouger, survendre le consumérisme. Mais la planète a changé. On a continué à vivre. Nous sommes en train de traverser une période où on a vraiment des signaux en gros plan qui nous montrent que notre planète va mal et que les humains que nous sommes, nous allons mal. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va exploser. Et puis on va recommencer avec autre chose. Mais c'est vrai que, même moi, quand je parle à mes enfants, je dis, on vous a pas laissé un bel héritage. Hein. Moi, j'ai connu un moment où je respirais de l'air, hein, où toute la production des tomates, des produits vivriers, des produits agricoles, il n'y avait pas de produits chimiques, il n'y avait pas d'engrais chimiques. Moi, j'ai vu les paysans qui n'ont jamais fait d'école d'agronomie, mais qui connaissaient la technique des cultures associées, qui connaissaient la technique du compost, qui est le meilleur engrais pour nourrir la terre, pour nourrir les plantes que nous cultivons. Et aujourd'hui, tout ça a disparu. Et donc, moi qui ai connu ça, quand je vois ce qui se passe passe aujourd'hui, on ne vous a pas laissé un bel héritage. Mais en même temps, je dis, on va finir par trouver la solution par nous-mêmes. Même si c'est facile de le dire avec des mots, quand ce n'est pas évident de donner une recette. Il n'y a pas de recette à donner. C'est bon, on constate quand même, dans cet océan de désastre, il y a quelques îlots. Prenons l'exemple de Chanak où nous sommes aujourd'hui à causer radio. Et voici un petit coin de terre, dans un petit village entouré de collines où il y a plus de verdure que de béton. Et même, je regarde les maisons qui sont construites à l'ancienne avec de la pierre taillée, donc de la matière vivante. Donc, et Chanak n'est certainement pas la seule ville comme ça en France. Il y en a de tonnes et de tonnes, certainement. Donc moi, je regarde ces îlots-là et je dis, c'est encore possible. Voyez un festival comme le vôtre. Moi qui suis un homme de radio, j'ai navigué sur les trois continents. L'Amérique, les Amériques, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, comment on appelle l'Afrique. Je ne connais pas l'Asie, je ne connais pas l'Australie. Mais sur ces trois continents, mon métier m'a permis de naviguer. Je découvre de gros festivals. En même temps, je découvre des festivals comme Détour du Monde, qui a encore une dimension humaine, qui a un rapport à l'humain, un rapport à son environnement écologique, un rapport à sa société, et qui remplit des salles avec 500 spectateurs. Alors que j'arrive à Paris, il y a Arena qui a fait des salles avec 100 000 personnes, et ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt de rencontre humaine. Et ici, c'est des humains, des femmes et des hommes qui se rencontrent, qui parlent de leurs problématiques, de leur joie, de leur peine, de leurs doutes, de leurs catastrophes. Mais et ça continue de faire avancer le schmilblick. Donc forcément, quand je regarde quelques exemples isolés comme ça, j'en ai vu des comme ça, comme un festival comme celui de Chanak, j'en ai vu au Québec, et j'en ai vu au Brésil. J'en ai vu aux États-Unis, même les États-Unis que je déteste au plus haut niveau à cause de leur politique sociale, culturelle, etc. Mais donc, l'espoir est permis. C'est l'amoncellement de ces petites initiatives isolées pour le moment qui un jour vont faire le grand événement à la dimension de la planète. C'est pour ça que l'ancien de mon village, quand tu considères qu'une action est trop petite, ça ne va pas donner de résultats efficaces. Regarde cette colline dont le sommet tutoie les nuages. Ce n'est qu'une accumulation de grains de sable. Pose ton grain de sable, ton voisin posera le sien, mais vous, les jeunes, vous êtes pressés de voir le résultat tout de suite. Ça ne se joue pas sur une vie, ça se joue sur la vie. Et les grains de sable que chacun d'entre nous posera, comme ce dont tu viens de parler chez vous à Chanak, comme ce que j'ai vu à Montréal, comme ce que j'ai vu au Brésil, c'est les grains de sable qui vont s'accumuler et un jour vont donner la colline de notre société, de ce monde auquel nous rêvons, qui soit toujours en rapport avec l'humain, en rapport avec la nature. Point.
En tout cas, Soro, je suis enchanté de t'avoir rencontré.
Moi aussi. Moi, c'est un très, très grand plaisir de te rencontrer chaque fois qu'on se voit. Ça fait plaisir d'échanger, de parler de radio, de refaire le monde en rappelant quand même nous sommes les plus beaux, les plus intelligents. Les gens ne le voient pas, mais nous, on le sait. C'est le plus important.
Merci beaucoup, Soro.
C'est mon plaisir. Merci beaucoup.